Place Info.
Bonsoir à la une, Sylvie Goulard rejetée par les eurodéputés. La colère froide, vous l'entendrez, d'Emmanuel Macron. Notre sondage Odoxa, Dentsu Consulting pour France Info, Le Figaro, sur la confiance des Français après l'attaque terroriste à la préfecture de police de Paris. Les questions toujours autour de l'offensive turque contre les Kurdes qui détiennent des centaines de prisonniers de Daesh. C'est dans les informés. Avec Véronique Rehl-Soult, la présidente de Dentsu Consulting, avec Pascal Jalabert, rédacteur en chef du bureau parisien du groupe EBRA, qui regroupe les grands titres régionaux de l'Est de la France, avec Olivier Perroux, journaliste politique au magazine Le Point, et avec Gilles Bornstein, éditorialiste politique à France Info. Bonsoir à tous les quatre. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio, à la TV, sur le canal 27 de la TNT. Déconvenu ou bien camouflé, la candidature de Sylvie Goulard au poste de commissaire européenne au marché intérieur a donc été retoquée, rejetée, appelez ça comme vous voulez, par les eurodéputés, 82 voix contre 29, un rejet net, massif, qui a provoqué cette colère froide d'Emmanuel Macron, qui était en conférence de presse à Lyon.
Donc moi je suis très détendu, ce qui m'importe c'est le portefeuille, mais j'ai besoin de comprendre ce qui s'est joué. De ressentiment, peut-être de petitesse, mais j'ai besoin de comprendre. En tout cas, là, ce qui m'importe, c'est la clarté du portefeuille, et moi j'aime que quand les engagements sont pris, ils soient tenus, comme ici. Voilà. Moi je me suis battu pour un portefeuille, j'ai soumis 3 noms, on m'a dit, votre nom est formidable, on le prend, et puis à la fin on dit, finalement on n'en veut plus, les mêmes. Donc il faut qu'on m'explique.
Gilles Bornstein, il n'est pas content, hein, le chef de l'État. C'est étonnant qu'il s'explique comme ça en public. Hein.
Il dit qu'il est détendu, mais enfin, son langage corporel parle pour lui. Il n'est pas détendu du tout. Il est très énervé, très agacé. Et je trouve que son agacement montre à quel point cette décision est un camouflet pour lui. C'est un camouflet pour ses conséquences, parce que ça réduit considérablement l'influence et le prestige de la France, ça réduit sa capacité à agir en Europe, et puis c'est un camouflet pour ce que ça révèle à la fois de Macron et de la Macronie. De Macron qui se trompe sur les castings, en gros, pour dire les choses clairement, je pense pas que...
Vous dites Christophe... qu'il s'est trompé, vous, oui.
Là-dessus,
fallait
ben,
pas.
Il s'est trompé. Tous les éléments pour lesquels elle est rejetée aujourd'hui, il les connaissait. Je viens de me rappeler, il se trouve que le jour où elle a été proposée par la France, j'ai déjeuné avec un macroniste de haut rang, à qui on disait ça, qui a dit, mais enfin, je le connais, le président, il est quand même pas fou. S'il l'a nommé, c'est qu'il a pris des assurances. Il avait peut-être pris des assurances, mais il s'est trompé. Donc voilà, ça révèle qu'il se trompe sur les castings, et ça révèle qu'il a trop confiance en lui, comme souvent.
Pascal Jalabert, le souci, c'est qu'il s'était engagé, lui, hein, en la faveur de Madame Goulard, et du coup, le boomerang lui revient...
Oui, alors il était prévenu par François Bayrou, notamment, ce qui est quand même pas rien, puisque c'est lui le patron du Modem et des centristes. Il savait quand même la fameuse affaire du rapport Bergroun, c'est-à-dire que Sylvie Goulard a quand même émargé salarié par un milliardaire allemand, enfin germano-américain, à 10 000 euros par mois, alors qu'elle était en même temps députée européenne. Donc bon, aujourd'hui, dans le nouveau monde, ce qu'on appelle le monde nouveau de la politique, ça ne se fait plus et tout se sait. Et enfin, il y a en effet l'affaire des emplois fictifs. Bon, là, c'est vrai que là, il y a la présomption d'innocence, mais tout ça cumulé, plus un peu de politicaillerie avec les sociaux-démocrates mécontents qu'on ait retoqué leur commissaire et la droite mécontente qu'on ait retoqué et Manfred Weber à la présidence et également leur commissaire. Donc du coup, tout ça cumulé fait que la candidature devenait intenable. Emmanuel Macron, il s'est trop engagé et en effet, il a commis une erreur de casting.
Olivier Perroux, quand il dit « il va falloir qu'on m'explique le 11 », c'est la présidente Ursula von der Leyen. Il y aura une explication de gravure, selon vous, parce qu'en fait, il y a eu une sorte d'accord entre les partis, les uns les autres.
Oui, alors quand il dit ça, il se dérobe un peu. Moi, je trouve qu'il y a une dérobade du président de la République assez incroyable, parce que Sylvie Goulard, c'était sa candidate. Moi, je me souviens d'une scène, Porte de Versailles, le meeting de la campagne, où Emmanuel Macron dit, juste avant de crier « c'est notre projet », il dit « oui, Sylvie, on va la faire, cette Europe ». Donc, c'est vraiment sa candidate. Et des trois personnes du casting dont on parlait tout à l'heure, Florence Parly, Ségolène Royal et Sylvie Goulard, Emmanuel Macron a lourdement insisté pour que ce soit Sylvie Goulard candidate. Et mais il en a parlé dès le début.
Mais il y avait eu des accords avec le PPE, le PSE, la Renaissance.
Oui, il y avait eu des accords. Forme d'assurance, mais faut se rappeler aussi ce que Emmanuel Macron a fait avec Manfred Weber. Justement, le PPE a vraiment pas du tout apprécié que Manfred Weber ne soit pas considéré par Emmanuel Macron. Je pense que quand il se dérobe en disant « il va falloir qu'on m'explique », d'ailleurs, les PPE, les sociodémocrates, viennent de lui répondre, hein, j'ai noté sur Twitter, ils viennent de dire « Ursula von der Leyen ne nous a jamais rien demandé à propos de Sylvie Goulard ». Donc c'est bien la preuve qu'il n'y avait pas de, ouais, deal à part celui de Macron qui pensait que c'était sa candidat, qu'il fallait la pousser là-bas.
Véronique Reilsoult, Sylvie Goulard devient une sorte de star sur les réseaux sociaux, non ?
En tout cas, en quelques heures, plus de 50 000 messages, on peut dire que ça intéresse les internautes. Le sujet, c'est du coup de quoi il parle. Alors, c'est pas tant d'elle que de Monsieur Macron. Et les trois choses qui ressortent, la première, c'est qu'en fait, les internautes se posent une question, c'est est-ce que nous aurions un problème de ressources humaines ? En fait, c'est de se dire pourquoi est-ce que... Alors, mi-amusé, mi-sarcastique, mais ils se disent pourquoi prendre des candidats compliqués ? Pourquoi, voilà, est-ce qu'on aurait un problème de ressources ? Est-ce que Emmanuel Macron aurait du mal à trouver des candidats ?
Ah, c'est une vraie question, vous posez, Gilles Bronstein.
Là, il y a un problème de réservoir de la Macronie. Pour dire les choses en langage sportif, il n'a pas l'effectif pour jouer à haut niveau.
Il y avait d'autres noms qui étaient cités quand même. On avait parlé de Florence Parly et d'autres.
À chaque fois qu'il y a un poste à pourvoir, de toute façon, ça pose problème. Un remaniement, théoriquement, ça dure une journée. Ça dure à chaque fois 10 jours. À chaque fois, il y a un problème. Il n'a pas l'effectif. Pour dire les choses...
La deuxième, c'était de dire que, dans le fond, il y avait un sentiment, dans les propos de M. Macron, d'une vengeance, d'un complot contre la France, contre truc qui ressortait beaucoup, en disant, mais est-ce qu'on nous en veut vraiment ? Et puis, le troisième... Et de dire que finalement, plus que pour M. Macron, c'est pour la France que c'est humiliant. Et c'est ça qui ressort le plus en disant, en fait, le coup de tonnerre, il est pour nous, Français. On est déjugés dans cette situation.
Allez, on va rester sur les enseignements de ce rejet de Sylvie Goulard pour l'heure 20h10 sur France Info. Rappel de l'info avec Jules Dekis.
Les forces turques progressent ce soir dans le nord de la Syrie. L'offensive militaire dénoncée par la communauté internationale se poursuit alors que les Européens demandent son arrêt immédiat. Le patron de l'ONU, où vient de se tenir une réunion du Conseil de sécurité, exprime sa profonde inquiétude. Des dizaines de milliers d'habitants fuient les zones de combat et une centaine de miliciens kurdes ont été tués, d'après le président turc. Nathalie Loiseau dénonce la rancune de certains eurodéputés. Stéphane Séjourné fustige l'attitude revancharde du PPE, le groupe de centre-droit au Parlement européen. Les cadres de La République En Marche à Bruxelles expliquent par des luttes politiques le rejet de la candidature de Sylvie Goulard à la Commission européenne. Elle était aussi fragilisée par une affaire d'emploi fictif présumée et son emploi par un think tank américain du temps où elle était eurodéputée. 7 Français sur 10 ne font pas confiance à Christophe Castaner. D'après notre sondage au Doxa Dentsu Consulting pour France Info et Le Figaro, les sondés reprochent notamment au ministre de l'Intérieur d'avoir commis une faute grave en parlant trop vite après l'attaque au couteau de la préfecture de police de Paris. Il avait assuré que jamais le tueur n'avait présenté de signes de radicalisation. Ce sont deux individus extérieurs à l'établissement qui sont venus poignarder un lycéen de 16 ans hier à Cerny en Essonne. C'est ce qu'assure l'Académie de Versailles. La victime, au poumon perforé, est maintenant sortie d'affaire. Une cellule psychologique est toujours ouverte dans le lycée. Et puis l'Olympique lyonnais négocie pour racheter une franchise américaine de football féminin. Le président Jean-Michel Aulas affirme avoir approché 2 équipes. Il espère rentrer dans des négociations exclusives dans les prochains jours. La Ligue de soccer a le vent en poupe après la victoire des Américaines à la dernière Coupe du Monde cet été.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Rancune, a dit Nathalie Loiseau, rappelé à l'instant Jules Dekis. Allez, je vais vous faire écouter 2 petites réactions au micro de nos amis de LCP, de 2 marcheurs, 2 députés de La République En Marche, Pierre-Alexandre Anglade, des Français de l'étranger, et Anne-Laure Cattelot, élue du Nord avec LCP.
En faisant le choix de rejeter Sylvie Goulard, une partie de l'hémicycle de Strasbourg plonge de fait l'Europe dans une situation de blocage et donc potentiellement de crise politique extrêmement importante.
Moi, je pense que c'est un acte politique du Parti populaire européen. On savait dès le départ qu'il n'était pas favorable à la proposition d'Emmanuel Macron et on sent que c'est finalement une forme de défiance vis-à-vis de la politique Union européenne d'Emmanuel Macron.
Olivier Perroux, ça rappelle l'ancien temps finalement.
Oui, hein. C'est exactement la réflexion que je me faisais, mais surtout ça démontre que même si le Parlement européen est beaucoup plus jeune que l'Assemblée nationale française, elle est beaucoup plus mature, elle est beaucoup plus dans l'air du temps en termes de décision, elle a beaucoup plus de poids. Donc évidemment, quand on a une Assemblée nationale avec des députés marcheurs aussi pléthoriques, ça surprend et il y a une réaction un peu épidermique.
Pascal Jalabert, on a dit et redit pendant des décennies qu'au fond, il y avait une forme d'opacité entre Strasbourg et Bruxelles, que ce Parlement était un peu godillot, qu'il finalement il ne faisait que voter les décisions de la Commission. Là, on voit qu'il y a alors, du vote d'opposition.
De moins en moins, hein, ça fait deux mandats où on commence à entendre le Parlement. Et puis les fameux engagements dont parle Emmanuel Macron et dont parlent les députés d'En Marche, c'est au mieux Mme van der Leyen et Emmanuel Macron ou les responsables des partis. Mais ça n'engageait en aucun cas les députés qui ont auditionné Mme Goulard aujourd'hui. Ils ont quand même leur mot à dire, ils ont envie de s'exprimer. Alors là, maintenant, la situation, là où elle se complique pour Emmanuel Macron, c'est qu'il doit trouver une autre solution. Mmh. Il faut qu'il trouve quelqu'un qui soit à la hauteur du point de vue des dossiers européens, etc., et également qui soit un peu incontestable médiatiquement.
Gilles Bernstein, vous avez une idée là-dessus, vous? Est-ce que vous nous avez donné un scénario hors micro?
Non, mais alors, le nom dont on avait parlé au moment de la nomination de Goulard, l'autre nom, c'était Florence Parly.
Bah oui.
Sauf que si on nomme Florence Parly, il faut trouver une ministre de la Défense.
Et je lui ai posé la question, elle m'a dit que c'était une rumeur, hein, pas plus. Hein.
Voilà. Oui. Moi, alors, il y a un autre nom qui circule, c'est Ségolène Royal. Moi, je trouve, alors là, pour le coup, j'ai zéro.
Oui, c'est Gilles Bernstein. Hein. Oui,
voilà, qui parle. Je trouve que Ségolène Royal, ministre de la Défense, ça a un peu de gueule, elle a un père militaire, c'est une femme d'autorité, elle apprenait l'ordre juste, elle est évidente. De toute façon, il faut une femme dans les deux cas. Elle serait respectée des militaires, mais alors vraiment, j'ai pas la moindre info, c'était juste un petit propos comme ça.
Je vais vous faire écouter ce que disent les élus de l'opposition, pour le coup. Alors, signal d'affaiblissement de l'influence française, a déclaré Brice Hortefeux, député européen LR. Voici successivement Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement National, et Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste français.
Le problème, c'est que le président de la République s'est entêté avec cela. Tout le monde lui avait dit, tout le monde l'avait mis en garde sur ce choix. Il s'est entêté. C'est ce côté arrogant, perpétuellement, qui démontre qu'effectivement, il a affaibli la France, qu'il n'est pas capable, on l'a vu, de défendre les Français à l'intérieur de leurs frontières. Il n'est visiblement pas capable non plus de défendre notre pays à l'extérieur.
Lui qui demande à ce qu'il y ait plus d'éthique en politique, que les personnes qui prennent des responsabilités et qui soient mises en examen se retirent de ces responsabilités, ferait bien de l'appliquer à ses amis et à ceux qu'il propose.
Véronique Reilsoult, ce que dit à l'instant Fabien Roussel m'interpelle. Hein, l'éthique en politique, au fond, c'est un sujet que l'on entend en filigrane hein, dans de nombreuses situations depuis quelques années, depuis notamment le coup de balai qu'a représenté l'élection d'Emmanuel Macron. On est dans cette thématique-là, selon vous?
On est un peu dans cette thématique, en tout cas, ça nourrit le fameux sujet de la défiance envers les politiques. Et on est un peu dans cette thématique parce que si je regarde quels sont les symboles, donc les fameux émojis que les gens utilisent dans les messages.
Les émojis, oui.
Les fameux émojis, ben figurez-vous que le homard est revenu cet après-midi. Et donc, il n'a rien à voir.
Pardonnez-moi, j'ai pas bien compris.
Le homard. Voilà. Il n'a rien à voir avec cette affaire et pour autant,
aucun rapport.
Et, enfin, en tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas d'histoire de homard avec Madame Goulard. Mais le sujet, c'est donc de montrer qu'en fait, systématiquement, on va repartir sur c'est quoi l'éthique, jusqu'où on va. Et donc, en fait, ce qui est souvent reproché, c'est de dire que souvent, les propos des politiques ne sont pas en phase avec leurs actes et qu'en tout cas, on n'annonce pas clairement les choses et que, voilà, dans le cas présent, ce qui est reproché à Mme Goulard, les uns et les autres disent mais c'était déjà connu, donc pourquoi est-ce qu'on y a été et pourquoi est-ce qu'on se met dans des situations où du coup l'éthique revient alors que fondamentalement il n'y avait pas de raison d'avoir ce débat-là.
Très intéressant ce que vous soulignez Véronique Reilsoult. Olivier Perroux, c'était mission impossible, c'est facile d'y revenir après coup, mais après tout, on l'a dit, redit, attention, risque pour le chef de l'État, c'était mission impossible.
C'est facile de le dire après coup, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes autour de lui qui lui ont fait comprendre que c'était pas une formidable idée non plus, et que le résultat, si on connaît un petit peu comment fonctionne depuis quelques années le Parlement européen, on pouvait s'attendre à ce résultat. La première personne à lui avoir dit, c'était François Bayrou. Bon, évidemment, pour des raisons de personnel, de dissension avec Madame Goulard. Mais il y a d'autres ministres qui sont intervenus, qui lui ont fait comprendre que ça pouvait fonctionner, mais que c'était compliqué. Jean-Yves Le Drian lui en avait parlé, etc. Même si c'est vrai que Sylvie Goulard est une personnalité européenne convertie, très, très compétente sur ses dossiers, etc. Mais là, il y a un véritable camouflet. Et c'est d'autant plus dangereux que des gens lui avaient dit qu'il fallait pas y aller, que il y a une, c'est un peu l'incarnation de la série d'échecs d'Emmanuel Macron sur le plan européen. Je les ai listés. Rappelez-vous, les listes transnationales rejetées par les conservateurs allemands. C'était une idée d'Emmanuel Macron. Ensuite, il voulait renforcer la gouvernance de la zone euro en créant un budget de la zone euro. Les pays du Nord, ils ont dit non.
Question.
Deuxième échec. La taxe GAFA, troisième échec. Et le Brexit, si on prend un exemple, au printemps dernier, il voulait un peu accélérer le Brexit et ça lui a été finalement pas accordé. Puis, ensuite, il y a eu la candidate, la tête de liste de la liste de la République en marche, Nathalie Loiseau. Et maintenant, il y a ça. C'est-à-dire qu'il y a une série d'échecs sur le plan européen qui détonne avec le discours de la Sorbonne d'Emmanuel Macron.
Seulement des échecs, vous diriez, ou...
Sur le plan européen, c'est l'incarnation.
En termes d'image, Gilles Bernstein.
Je trouve que c'est vraiment un gros échec aujourd'hui. C'est un très gros échec pour Emmanuel Macron. Maintenant, il faut relativiser. Il y a un mois, on sortait du G7, où nous tous, on disait, il a fait une performance exceptionnelle, il a fait venir le ministre iranien.
Oui, mais c'est quantifiable, là.
Non, mais bien sûr, mais je suis le premier à dire que c'est un échec, et que c'est vrai que sur la scène européenne, en fait, il voulait tout révolutionner, comme en France. Il pensait qu'il était le meilleur, casser la vie politique, casser la gauche, casser la droite, casser le PPE, il n'a rien cassé du tout. Et quand il a voulu imposer des choses, c'est vrai qu'il a échoué. Maintenant, l'actualité va vite, il faut relativiser. Je le disais, il y a 6 semaines, à en sortir de Biarritz, on disait il a fait un G7 fantastique. Donc voilà, il a des succès, il a des échecs, et ce soir, c'est un échec.
Pascal Jalabert, comment est-ce que le président peut éventuellement sortir par le haut de ce mauvais pas, on va dire ?
Ben, ça va être difficile. Alors, il faut qu'il trouve en effet une personnalité incontestable.
Qui ferait oublier l'épisode précédent.
Qui fasse un peu oublier l'épisode précédent. Mais globalement, moi, je prends l'opinion. Votre auditeur, en ce moment, à Annonay, dans l'Ardèche, ou nos lecteurs à Montbrison, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit une commissaire européenne qui était députée européenne, qui gagnait 7 693 euros par mois et qui, à côté, percevait 11 000 euros par des fonds privés. Imaginez la réaction, mais attendez, elle avait déjà un bon salaire, et là, et les gens disent, c'est normal que les députés européens la sanctionnent. Donc du coup, Emmanuel Macron, il peut pas continuer comme ça, à essayer de la défendre, à dire c'est un complot politique contre moi. Ce qui fait que là, maintenant, il est contraint de trouver quelqu'un d'assez indiscutable, y compris vis-à-vis de l'opinion, parce que Sylvie Goulard, c'était une parfaite inconnue jusqu'à ce matin. Là, aujourd'hui, on la connaît un peu plus.
Allez, rapidement, Olivier Perroux, pour conclure.
Juste pour revenir, c'est vraiment une question de ressources humaines. On en parlait tout à l'heure. Là, une question de RH. Jusqu'à présent, Emmanuel Macron était un mauvais DRH, à lui de prouver sur son sujet, sur l'Europe, qu'il est un bon DRH pour trouver quelqu'un d'incontestable.
Allez, 20h20 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Jules Dekis.
L'image de Christophe Castaner est sérieusement écornée après l'attaque à la préfecture de police de Paris. 7 Français sur 10 disent ne pas faire confiance au ministre de l'Intérieur, estiment qu'il a parlé trop vite en assurant très rapidement que le tueur n'avait jamais présenté de signes avant-coureurs. C'est le résultat de notre sondage au Doxa Dentsu Consulting pour France Info et Le Figaro publié ce soir. La CGT engage une action en justice pour tenter d'empêcher la fermeture du site Michelin de La Roche-sur-Yon. Une décision annoncée ce matin par l'industriel. L'avocat du syndicat explique sur France Info que les licenciements sont interdits sans motif économique valable. Or, d'après lui, il n'y en a pas dans le cas présent. Le spécialiste du pneumatique propose à ses salariés des solutions de reclassement dans d'autres sites du groupe. Plusieurs pays, dont la France, proposent près de 13 milliards d'euros pour lutter contre les maladies infectieuses. Réunis à Lyon, aujourd'hui, ils promettent d'alimenter un fonds mondial dédié à cette cause. Objectif, éradiquer le sida, la tuberculose et le paludisme dans les 10 prochaines années. L'Allemagne veut augmenter ses effectifs dans les services de sécurité. C'est ce qu'annonce le ministre de l'Intérieur au lendemain de l'attaque terroriste de Halle. Cet acte antisémite est d'après lui une honte pour son pays. 2 morts alors que l'assaillant d'extrême droite voulait entrer dans une synagogue pour y commettre un véritable carnage d'après les autorités. Et puis la France ne protégerait pas comme il se doit les espèces menacées en mer Méditerranée. C'est ce que pointe du doigt une cinquantaine de scientifiques européens dans un ouvrage publié aujourd'hui. Il n'y a d'après eux pas assez de réserves naturelles marines et le niveau l'information est déplorable pour les plaisanciers.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquilini.
Voilà, il y a l'instant sur l'offensive turque en Syrie. C'est extrêmement grave et cela remet en cause 5 ans de combat contre Daesh, déclare Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères sur France 2. Nous consacrerons un long chapitre à cette offensive turque dans la deuxième partie des informés. Je reviens à notre enquête Odoxa, Dentsu Consulting pour France Info, Le Figaro, réalisée hier et aujourd'hui auprès d'un millier de personnes sur Internet, évoquée à l'instant par Jules de Kiss. L'attaque à la préfecture de police est bien abîmée, il faut le dire, à la confiance des Français dans les institutions censées les protéger et a terminé de détruire leur image et bien du ministre de l'Intérieur. Explication avec vous pour commencer, on pose le débat, Gaël Sliman, le président de Doxa.
Les trois quarts des Français, 73% d'entre eux précisément, nous disent non, cette affaire, ce n'est pas juste un acte isolé, c'est le signe que plus globalement, le ver est dans le fruit et que nos services de renseignement, nos services de sécurité, eh bien, sont probablement nombreux à être ainsi noyautés, infiltrés et à faire courir ce type de risque à notre pays.
Véronique Rensoult, partenaire avec Dentsu Consulting de cette enquête, image très dégradée.
Une image dégradée et sur, ce qui est assez frappant, c'est un sujet de confiance. Quand on regarde les mots qui sont utilisés, c'est pas, ce qui est étonnant, c'est que paradoxalement, on ne demande pas tant que ça la démission du ministre. C'est plus un sujet de... C'est qu'en fait, ils ont plus confiance. Ils trouvent qu'ils donnent l'impression de ne pas maîtriser ces sujets. Ils donnent l'impression de... Enfin, il n'est pas rassurant, alors que les Français ont peur et que après, comme le disait Gaël Sliman, 73% des gens pensent que c'est pas un acte isolé et que ça va arriver de nouveau. Et donc, ils ne sont pas rassurés. Ils ont l'impression qu'ils ne maîtrisent pas, qu'il manque d'autorité, qu'il n'est pas forcément compétent sur le sujet. Donc, une image très abîmée pour un ministre de l'Intérieur qui est normalement un poste clé. D'autant que si je regarde le volume des discussions, il représente plus de 51% des discussions sur l'ensemble des membres du gouvernement. Donc c'est le ministre le plus en vue, c'est celui dont on parle le plus et on n'en parle pas en bien.
Il y a l'image des institutions qui est dégradée, hein, c'est ce que nous expliquions. Cette attaque donc a dégradé cette image lesquelles les Français, les institutions hein, ont encore confiance. Moins 5, Véronique, à moins 7 points sur la police,
l'armée, les services de renseignement. Donc globalement, cette affaire, elle a en soi mis le doute, semé le doute, qui de toutes les façons est un sujet compliqué. La baisse de confiance dans les institutions existe depuis un moment, mais là, c'est quelque chose d'encore plus fort parce que du coup, on se dit, on peut plus vraiment avoir confiance, même dans ces endroits qui semblaient pour les Français plutôt protégés et à l'écart de l'ensemble des dangers aujourd'hui, en particulier des dangers terroristes.
Pascal Jalabert, vous estimez ce soir qu'au fond, cette perte de confiance, elle réside dans le fait que l'attaque s'est produite au sein même des services de renseignement, au cœur de la préfecture de police de Paris.
Oui, complètement. C'est-à-dire que normalement, ce sont ces services qui sont censés nous protéger. Il faut rappeler à nos concitoyens que la meilleure protection contre les actes terroristes, c'est pas Vigipirate ou les militaires qui patrouillent dans les rues, même si c'est indispensable. La meilleure protection, on le sait, c'est le renseignement. C'est tout ce qu'on peut détecter en amont, le suivi des individus, le fichage, etc. Or, si en effet la confiance est perdue dans ce qui est le meilleur rempart, là, ça devient plus problématique. Alors, il faut savoir que les services d'enseignement, depuis quatre ans, ont été renforcés, qu'on a beaucoup recruté, que beaucoup de gens apprennent, que c'est compliqué, que la préfecture de police de Paris, c'est un peu une sorte d'état dans l'état au sein de la police et les ministères. Et je crois que c'est ça, d'ailleurs, qui a posé le plus de problèmes, d'après nos confrères plus spécialisés, notamment sur France Info. Donc, du coup, faute de remise à plat, la confiance s'est perdue et s'est détériorée.
Olivier Perroux, vous avez été surpris par, au fond, le résultat de cette enquête ?
Surpris, étonné par la violence des mots choisis à l'égard de Christophe Castaner et tous les mots qu'on disait à propos du manque de confiance, de la perte de confiance dans les institutions de défense et de protection, c'est d'autant plus difficile politiquement pour Christophe Castaner parce que ça vient sous son contrôle, sous son égide, même si je comprends la défense, on peut mettre la défense à part pour d'autres raisons. Mais la plus violente, l'information du sondage qui m'a plus surpris, c'est les sympathisants La République En Marche on peut pas accuser non plus d'être des critiques premiers ou des traîtres,
ils sont assez légitimistes.
Ils sont assez légitimistes. Ils sont quand même une majorité à considérer Christophe Castaner comme un, je cite, Gaston Lagaffe. Donc l'image, elle est assez terrible aujourd'hui, parce qu'elle détonne d'un Cazeneuve à l'époque des attentats qui avait une image quand même rassurante.
On va rester sur, vous avez raison, on va rester sur cette thématique du ministre de l'Intérieur, puisqu'on va écouter dans la deuxième demi-heure des extraits de l'audition ce matin au Sénat. Encore un mot avant la pause, Gilles Bernstein, Christophe Castaner, image extrêmement abîmée. Extrêmement abîmé.
Ouais, mais je pense qu'il paye, c'est pour l'ensemble de son œuvre, parce que, comme vous le dites, Véronique, les Français ne réclament pas sa démission. Il a usé, le terroriste a usé 5 ministres de l'Intérieur. Il a commencé, il a été embauché sous Sarkozy. Donc, il en a. Donc, je pense que les gens comprennent que, là, il y a des dysfonctionnements graves, gravissimes à l'intérieur de la préfecture de police, des choses qui n'ont pas fonctionné. Mais enfin, je pense que les gens comprennent que ce n'est pas de la faute, en tout cas, que de la faute de Christophe Castaner. En même temps, Christophe Castaner, bah, c'est toujours, on en revient au problème d'effectifs d'Emmanuel Macron. Christophe Castaner était un deuxième choix après le départ de Gérard Collomb. Il a fallu 10 jours pour le trouver, comme quoi il n'était pas indispensable. Et Christophe Castaner est à l'évidence pas un excellent ministre de l'Intérieur. Il n'a pas une très bonne réputation. On sait qu'il y a eu les gilets jaunes et les problèmes de maintien de l'ordre, ses frasques en boîte de nuit, la mort du jeune Nantais, voilà. Ça fait l'ensemble de son œuvre.
Allez, nous écouterons des extraits de son audition ce matin devant la commission des lois du Sénat. Nous reviendrons évidemment sur l'offensive turque dans quelques minutes, dans la suite des Informés de France Info.
Avec le Secours Populaire, ils ont choisi de transmettre leur bonheur.
Bonjour, je m'appelle Michel, j'ai 54 ans. Certes, je ne suis pas fortuné, mais cela ne m'empêche pas d'être solidaire. J'ai décidé de faire bénéficier le Secours Populaire de mon assurance vie, car je lui fais entièrement confiance pour aider les personnes les plus démunies près de chez moi.
Legs Donation Assurance Vie, demandez notre documentation gratuite au 01 44 78 79 26 ou rendez-vous sur secourspopulaire.fr. Secours Populaire, on peut donner du bonheur, on peut aussi le transmettre.
Mercedes-Benz.
Hey Mercedes, monte le son. Hey Mercedes, y a un resto italien dans le coin? Hey Mercedes, combien de temps pour aller à Milan?
Vous voyez, on peut tout demander à Mercedes. Même une offre exceptionnelle, comme la nouvelle classe B à 290€ par mois avec la boîte auto offerte. Alors, rendez-vous chez votre distributeur Mercedes-Benz pour en profiter.
Offre à l'aile des 37 mois 45 000 km pour une classe B 180 Styline Edition. Premier loyer de 3 500€ si acceptation par Mercedes-Benz Finance. Valable du 1er au 31 octobre, livraison avant le 27 décembre 2019. Détails sur mercedes-benz.fr.
France Info Météo, avec Gauthier, fabricant français de meubles de rangement sur mesure, pour toutes les pièces de la maison, à retrouver en magasin et sur gauthier.fr.
La météo, les prévisions avec vous, Elodie Calac pour Météo France.
Plus doux et ensoleillé demain entre le nord-ouest, l'Orléanais, la région parisienne et les frontières du nord. Beaucoup de grisailles le matin. L'après-midi, ça restera gris près de la Manche avec quelques gouttes du vent. Ailleurs, on retrouvera de belles éclaircies. Plus au sud, le soleil sera là dès le matin. Alors vers le centre, la Bourgogne, le Massif central, la Côte d'Azur, un peu de patience. Le soleil sera parfois contrarié par des nuages bas ou des brouillards, mais ça ne durera pas. En revanche, sur le Languedoc-Roussillon, le vent de sud-est apportera un ciel gris l'après-midi. Le matin, il fera 5 à 10 degrés sur le sud et dans l'est, 9 à 14 degrés sur le nord-ouest, le nord et autour de la Méditerranée. L'après-midi, de la douceur, 18 à 23 degrés au nord, 22 à 26 au sud et jusqu'à 29 pour le sud-ouest.
À 20h30 minutes sur France Info, toute l'info avec vous. Bonsoir Olivia Ferrandi.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. En portant leur frigo, leur matelas et des sacs bourrés de vêtements, des femmes et des enfants brinque-ballés dans des camionnettes de fortune tentent ainsi de fuir les zones de combat au nord de la Syrie. Au lendemain du lancement de l'offensive turque contre les forces kurdes, il y a ainsi plus de 60 000 déplacés. Le Conseil de sécurité de l'ONU est réuni actuellement à New York. Cette offensive a déclenché un tollé international. L'Iran, la Russie, l'Italie et la France, par la voix d'Emmanuel Macron, appellent à l'arrêt immédiat de l'offensive.
Je condamne avec la plus grande fermeté l'offensive militaire unilatérale qui est en cours en Syrie. Et j'appelle la Turquie à y mettre un terme le plus rapidement possible. Aujourd'hui, la Turquie est en train d'oublier que la priorité de la communauté internationale en Syrie est la lutte contre Daesh et le terrorisme. Elle est en train de faire courir un risque humanitaire à des millions de personnes. Et ce risque, le risque d'aider Daesh à reconstruire un califat. Et ce risque humanitaire, c'est la responsabilité seule que prend la Turquie. devant le reste de la communauté internationale.
Paris qui demande également ce soir une réunion d'urgence de la coalition internationale qui avait été créée pour combattre Daesh. Ce qui s'est produit hier à Halle constitue une honte pour le pays tout entier, déclare ce soir le ministre allemand de l'Intérieur et il ajoute « Avec notre histoire, une telle chose ne doit pas arriver ». Des propos tenus au lendemain de la mort de deux personnes tuées par un Allemand de 27 ans, un militant d'extrême droite. Le ministre de l'Intérieur promet d'augmenter les effectifs des forces de sécurité. 14 milliards de dollars supplémentaires pour le Fonds mondial de l'ONU contre le sida, la tuberculose et le paludisme. La réunion des donateurs avait lieu à Lyon aujourd'hui. La France est le deuxième donateur après les États-Unis. Le président français n'a pas ménagé ses efforts pour obtenir la participation financière de plusieurs États, mais aussi de partenaires privés comme Bill Gates ou encore le chanteur Bono. Emmanuel Macron qui se voit par ailleurs infliger un camouflet. Les eurodéputés ont donc rejeté finalement aujourd'hui la candidature de la Française Sylvie Goulard pour un poste de commissaire européen. La méfiance des députés l'a emporté alors que Sylvie Goulard avait été payée 10 000 euros par mois pour des mission réalisée au profit d'un groupe américain de réflexion et que son nom était également cité dans l'affaire des emplois présumés fictifs d'assistants parlementaires. Michelin promet qu'une solution de reclassement sera proposée à chacun des 619 employés du site de La Roche-sur-Yon en Vendée. Ce site va fermer fin 2020. Le patron du groupe de pneus l'a annoncé aujourd'hui. L'usine est trop petite. Il y a aussi la concurrence asiatique. 30% des pneus vendus en Europe aujourd'hui viennent de Chine. Perquisition aujourd'hui à Rouen dans les usines mitoyennes Lubrizol et Normandie Logistique. Les dirigeants des deux sociétés se renvoient la responsabilité de l'incendie du 26 septembre. Et puis l'on a appris la disparition de la comédienne Marie-Josée Natt. Ses yeux aussi noirs que ses cheveux avaient marqué le cinéma français des années 60 et 70. Elle s'est éteinte aujourd'hui à l'âge de 79 ans. Les informés, la suite, c'est tout de suite.
France Info, les informés. Jean-François Aquili.
La deuxième partie des informés avec Véronique Reil-Soult, présidente de Dentsu Consulting, avec Pascal Jalabert, rédacteur en chef du bureau parisien du groupe Ebra, avec Olivier Perroux, journaliste politique au Point, et Gilles Bornstein, éditorialiste politique à France Info. Nous évoquions tout à l'heure notre enquête au Doxa Dentsu Consulting, France Info, Le Figaro, après l'attaque terroriste contre la préfecture de police de Paris. Christophe Castaner, qui a été auditionné ce matin par la commission des lois du Sénat. De nombreuses questions sont restées en suspens, comme le contenu de la clé USB. Une question lui a été posée également. Y aurait-il d'autres Michael Harpon, du nom du terroriste, dans les services?
Personne ne peut vous dire, droit dans les yeux, non, monsieur le Président, il n'y a personne qui correspond à ce profil-là. Moi, je ne connais pas aujourd'hui de logiciel qui pourrait passer au criblage. 5 millions de fonctionnaires.
Gilles Bornstein, il y a donc ces auditions qui s'enchaînent pour Christophe Castaner et pour Laurent Nunez, son secrétaire d'État à la sécurité. Est-ce que vous pensez qu'elles sont susceptibles d'apporter des éclairages nouveaux sur ce qui s'est produit
Franchement, non. Franchement, non, parce que c'est couvert par le secret. La première audition à que nous n'avons pas entendue devant les parlementaires habilités secret défense, il s'est peut-être dit des choses. Parce que il était obligé de tout dire, puisqu'ils étaient tous habilités secret défense.
Sous le sceau du secret.
Donc, il pouvait parler. Là, de toute façon, il y a le problème des enquêtes judiciaires en cause qui l'empêchent de parler d'un certain nombre de choses. Et il y a surtout énormément de choses, et c'est normal, qui sont couvertes par le secret défense. Par exemple, le criblage. Il est logique qu'on ne révèle pas à notre ennemi potentiel ou éventuel qui est criblé, qui est surveillé et comment. C'est tout à fait logique. Mais ce qui fait que toutes les questions sensibles, il peut et il doit, et moi ça ne me choque pas, se réfugier derrière le secret défense. Donc je ne pense pas qu'on va avancer beaucoup avec ces commissions. Cela dit, ce n'est pas inintéressant. Hein. On apprend des trucs techniquement. Enfin, on comprend comment ça se passe, mais on n'avancera pas beaucoup.
Olivier Perroux, partagez le point de vue de Gilles Bornstein.
Oui, complètement. Oui. Sur le secret défense, il y avait une scène un peu hallucinante pendant l'audition du Sénat où Philippe Bas lui demande toute une série de documents et Castaner dit ok, mais ils sont classés sous le secret défense, on va pouvoir vous les donner malgré tout, et il est corrigé par son secrétaire d'État Laurent Nunez qui lui dit non, c'est secret défense, il faut vraiment qu'on voit. Donc c'est vrai que là la commission, je suis pas sûr qu'elle soit vraiment utile à l'enquête ou à poursuivre l'enquête. Là on demande surtout, la commission, c'est comme pendant l'affaire Benalla, la commission est surtout très politique et elle demande des règles
C'est différent.
Non mais dans le sens politique,
Pascal Jalabert, pour compléter ce qui est dit là, c'est souci de transparence quand même.
Oui, c'est transparence, c'est surtout souci maintenant de rassurer l'opinion. C'est-à-dire, il faut que les députés, qui sont aussi des intermédiaires entre le gouvernement et l'opinion, fassent quelque chose. Moi, je trouve que Christophe Castaner, il pâtit quand même de la comparaison, au moins avec ses deux prédécesseurs. On a eu avant lui Bernard Cazeneuve qui rassurait. Voilà, alors même si...
Colomb plus autoritaire.
Voilà, Colomb plus autoritaire, et Manuel Valls, surtout, qui incarnait une autorité, je parle du Manuel Valls, mais à l'intérieur, celui d'après. Et là, Christophe Castaner, il arrive, et n'oublions pas qu'Emmanuel Macron nous a quand même vendu, entre guillemets au début, un gouvernement de compétences, en disant, je vais recruter dans le privé, à gauche, à droite, je vais prendre les meilleurs. Donc, ça m'étonne pas, et notamment l'électorat LREM, qui est mécontent de Castaner, c'est quand même un électorat qui a une forte exigence, et là, ben, il est jugé pas au niveau pour le moment.
Et pour conclure, Véronique Reilsoult, on le rappelle, hein, image abîmée du ministre de l'Intérieur dans notre enquête au Doxa d'Anso Consulting France Info Le Figaro, avec un crible assez calamiteux.
Un crible calamiteux, et pour revenir sur le sujet de ces auditions, en fait, les Français n'en attendent pas forcément grand-chose. Ce qu'ils lui reprochent principalement, c'est quelque chose qu'il va pas pouvoir rattraper, c'est que pour le 2/3 des Français, ils considèrent qu'il a commis une faute quand il s'est exprimé trop vite sur le sujet. Allez. Et donc globalement, c'est ça le côté, ils ne maîtrisent pas et on n'est pas, et c'est pas rassurant parce que pour eux, un ministre de l'Intérieur doit pouvoir dire, en l'état des choses, je ne peux pas encore me prononcer, nous sommes en train, enfin voilà, bref, en gros, il a parlé trop vite et quelles que soient les commissions qu'il y aura derrière, ça ne corrigera pas cet effet de précipitation qui lui est reproché aujourd'hui.
Et les enquêtes en cours, et bien évidemment, n'ont pas encore délivré tous leurs secrets. L'offensive turque à présent contre les Kurdes dans le nord-est de la Syrie, condamnée avec la plus grande fermeté par Emmanuel Macron à Lyon. Que peut faire l'ONU qui doit se réunir en urgence avec son conseil de sécurité? J'ai posé la question tout à l'heure à Florence Parly, invitée du 1850 France Info, la ministre des Armées, vous allez l'entendre, qui a révélé la nature musclée de ses échanges avec son homologue turc.
Notre priorité, c'est la lutte contre Daesh. Il ne faut pas l'oublier. Donc, en pratiquant, comme elle vient de le faire, cette attaque unilatérale, la Turquie prend le risque de ruiner les efforts, non pas simplement les siens, mais les efforts de toute la coalition internationale. J'ai eu l'occasion cet après-midi d'échanger avec le ministre de la Défense turc. La conversation a été musclée, je peux vous le dire. Alors, nous avons saisi le Conseil de sécurité de l'ONU parce que ce que nous voulons obtenir, c'est que la Turquie cesse cette intervention, qu'elle y renonce. Et c'est ce que j'ai demandé à mon collègue.
Par la négociation ou par la force?
Qu'elle y renonce.
Je voudrais commencer par vous, Véronique Reilsoult. Ce sujet, cette offensive turque, est-ce que c'est un sujet d'inquiétude pour l'opinion?
C'est un sujet d'inquiétude et un sujet d'inquiétude mondiale, puisqu'on a plus d'un million sept de messages partout dans le monde, surtout évidemment en Turquie et beaucoup aux États-Unis, avec un hashtag qui est beaucoup repris un peu partout dans le monde, qui est « Turkey is not our friend ». Et globalement,
la Turquie n'est pas notre ami.
Et beaucoup de colère qui est exprimée ressort très souvent dans les messages la notion de trahison, d'un peuple qui nous a soutenus et qui nous a aidés. Et donc, beaucoup d'expressions. Ce qui est intéressant, c'est qu'aux États-Unis, on sent que c'est un peu compliqué et que ce sont essentiellement les démocrates qui s'expriment et de façon plutôt forte. Les autres sont un peu perdus. Mais c'est un sujet d'inquiétude pour tous, même si...
Vous diriez que la Turquie fait l'unanimité contre elle?
Erdogan fait l'unanimité contre lui.
Contre lui.
Non, mais l'expression est « Turkey is not our friend », mais c'est surtout Erdogan qui est visé derrière ce hashtag.
Et la France est-elle en danger par cette offensive turque contre les Kurdes du nord-est de l'Irak? Nous posons la question ce soir. Pour l'heure, nous marquons une pause. 20h40, rappel de l'info avec vous, Jules de Kiss.
Après la réunion ce soir du Conseil de sécurité des Nations Unies, les Européens demandent l'arrêt immédiat de l'opération militaire turque contre les Kurdes dans le nord de la Syrie. Le ministre français des Affaires étrangères demande une réunion d'urgence de la coalition qui lutte contre Daesh. Jean-Yves Le Drian craint que cette offensive déstabilise la région et permette aux groupes terroristes de se reconstituer, aux djihadistes prisonniers de s'échapper. Fin des perquisitions ce soir à Rouen dans les locaux de l'usine Lubrizol et dans ceux de sa voisine Normandie Logistique. Deux sociétés société qui se rejette la faute sur le départ de l'incendie de l'usine classée Seveso il y a deux semaines. Une enquête ouverte à Paris pour mise en danger de la vie d'autrui. Le parquet de Pontoise ouvre une information judiciaire contre X pour homicide involontaire après la mort d'un jeune homme à Villiers-le-Bel dimanche dernier. Un drame alors que des policiers interpellaient un autre individu à proximité. De nombreux habitants qui ont manifesté lundi réclament la vérité et accusent les forces de l'ordre d'être impliquées dans l'accident. Les enquêteurs de la Brigade nationale de recherche des fugitifs arrêtent à Paris un néerlandais en cavale après des condamnations pour viol sur mineur dans son pays. Il s'était évadé d'un centre psychiatrique des Pays-Bas la semaine dernière. En Équateur, les indigènes rejettent tout dialogue avec le gouvernement et appellent à radicaliser leurs actions. Ils retiennent notamment en otage 8 policiers en ce moment à Quito, la capitale. Depuis une semaine maintenant, des manifestations ont lieu chaque jour pour dénoncer la hausse du prix de l'essence. 5 personnes sont mortes dans ces affrontements.
France Info, et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Gilles Bornstein, on a entendu tout à l'heure la ministre des Armées, Florence Parly, évoquant cet échange vraisemblablement musclé avec son homologue turc. Et à la question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il s'agit de diplomatie, voire peut-être d'intervention militaire? Il n'y a pas de réponse aujourd'hui.
L'intervention militaire, je pense que personne n'y croit. C'est vrai qu'un certain nombre de personnes la réclament. Enfin,
casque
je
bleu,
vois...
Il est question de casque bleu. Oui, c'est ce que disait Éric Coquerel ici même.
C'est ce que disait Éric Coquerel. C'est ce que disent un certain nombre de personnalités, même de droite, que la France doit participer à une coalition militaire sur le terrain. Très honnêtement, j'y crois pas. Tout à l'heure, Florence Parly vous disait, nous avons fait comprendre aux Turcs qu'ils doivent renoncer. D'après ce que j'ai compris, c'est pas de les faire renoncer parce qu'ils savent très bien que de toute façon l'opération est commencée, mais c'est que, vous savez, la Turquie veut créer une espèce de zone de sécurité. C'est que la Turquie accepte de créer la zone de sécurité la plus faible possible, la plus petite possible. Tout le monde a bien compris qu'il faisait ça essentiellement pour des motifs de politique intérieure. Erdogan, il a perdu les élections municipales. C'était un miracle économique, c'est devenu un cauchemar économique, il est moins soutenu, même peu soutenu par sa population, il a besoin de se redorer la pilule, et comme souvent, il essaye de le faire sur le dos d'un pays extérieur. C'est vrai que maintenant, toute la Turquie, tous les partis politiques, à part les partis kurdes évidemment, sont pour lui. Donc en gros, ce que j'ai compris, c'est que les Occidentaux lui disent « Ok, tu fais ta petite opération de politique intérieure, mais tu ne vas pas trop loin. »
Et tu rentres éventuellement à la maison. Ça non, parce qu'une fois qu'il aura investi les lieux, ça va être compliqué ensuite de leur faire repartir.
Après, il y a évidemment ce problème des djihadistes. Il ne faut pas qu'il aille jusqu'à la zone où les djihadistes seraient élargis.
Les Kurdes détiennent de 150 à 200 djihadistes français du groupe terroriste Daesh, sans parler des femmes, des enfants. Il y a un risque d'évasion.
Alors le total, ça serait plutôt entre 50 et 65 000 djihadistes plus les familles de tous les pays étrangers, pas que français. C'est-à-dire que quand on additionne...
Moi, je vous donne le nombre des détenus sur la zone. Des Français détenus sur la zone.
Détenus sur la zone, oui, c'est 150 adultes plus des enfants, en effet. Donc oui, alors il y a quand même ce risque-là pour les Occidentaux, même si on peut imaginer on a quand même quelques forces spéciales et quelques services de renseignement sur place qui savent à peu près où ils sont et qui seront en mesure de faire nécessaire au cas où. Mais ce qui est incompréhensible aujourd'hui, tant pour l'opinion que du point de vue diplomatique, c'est qu'on a quand même aidé ces Kurdes à lutter contre Daesh parce que c'est eux qui étaient les mieux placés sur le terrain, parce qu'ils avaient des capacités
combattantes. Ils ont payé ce qu'on appelle le prix du sang.
Voilà, ils ont payé le prix du sang et qu'on a aujourd'hui la Turquie qui est membre de l'OTAN comme nous, qui se met à les attaquer. Donc là, ça devient complètement illisible. Et oui, ça devient dangereux. Après, ce que disait Gilles est exact, c'est le vieux classique. Quand ça va mal à l'intérieur, on déplace les problèmes à l'extérieur en faisant une guerre. Et c'est ce que fait Erdogan. Erdogan, il fait très clairement de la politique intérieure. Donc on peut supposer qu'à un moment donné, il va s'arrêter. Autre problème pour lui aussi, il faut pas oublier qu'il a des déplacés, des réfugiés sur son territoire, 3 millions, et que, à mon avis, ça va être l'occasion pour lui d'en pousser quelques-uns sur le territoire syrien.
Olivier Perroux, le problème, c'est le ou pas, justement, c'est le risque d'évasion de ces détenus et de reconstitution d'un califat de l'État islamique.
Oui, alors, c'est vrai qu'on a des services de renseignement sur place qui surveillent un peu ces djihadistes, qui savent du moins où ils sont, mais sur le plan intérieur, la France, sur ce dossier, elle a l'air un peu, pardon de l'expression, mais benêt, parce que, rappelez-vous, il y a quelques semaines, ou quelques mois, on débattait de l'intérêt ou du risque, justement, de rapatrier ces djihadistes français, et on a débattu pendant plusieurs semaines, enfin, plusieurs jours du moins, sur avec beaucoup d'opposition, notamment de la part de la droite et du Rassemblement National.
Sur la nécessité ou pas de rapatrier les combattants, les familles.
Que le renseignement, une partie de renseignement qui plaidait en ce sens, ne le faisait pas juste pour des questions de droits de l'homme. C'est vraiment des questions de garder un œil sur ces djihadistes. Et le vrai risque aujourd'hui dans ce conflit, c'est qu'on perde la surveillance de ces djihadistes et qui sortent dans la nature.
C'est le risque.
Et c'est vraiment le risque principal aujourd'hui.
Il y a un autre risque plus subtil, si j'ai bien compris, c'est qu'Erdogan les récupère et demande, impose à chaque pays de récupérer ses ressortissants. Et face, on sait la capacité de chantage qu'a Erdogan, puisqu'il garde un certain nombre de réfugiés syriens qui l'empêchent de passer, il les empêche de passer en Europe, c'est qu'ils disent, moi j'ai tant de ressortissants de chez vous, vous devez les récupérer. Et on sait que la France n'a pas très envie de récupérer
des djihadistes. On voit ça avec les franco-français, mais il y a aussi quelques Belges, il y a des Tunisiens, beaucoup, des Algériennes, donc du coup, il peut avoir un atout diplomatique énorme de nature à créer des tensions en Europe, au Maghreb, un peu partout.
Quoi. Et puis, il y a le rôle éminent dans cette affaire de Donald Trump qui, dimanche dernier, souvenez-vous, avait semblé donner une forme de feu vert implicite à cette opération en annonçant le retrait des troupes américaines avant d'opérer une timide volte-face. Et je vous propose de réentendre ces propos absolument incroyables du président américain Donald Trump.
Les Kurdes se battent pour leur terre, comprenez bien. J'ai lu tout à l'heure un article très puissant qui disait « Les Kurdes ne nous ont pas aidés pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ne nous ont pas aidés en Normandie, par exemple. » Qui plus est, nous avons dépensé énormément d'argent pour leur venir en aide, en termes de munitions, d'armement ou de salaire. Ceci étant dit, nous aimons bien les Kurdes.
Véronique Reltsout, les Kurdes et le D-Day, franchement, c'est très compliqué. En fait, c'est très compliqué de trouver le lien.
Si on essaie de comprendre Monsieur Trump depuis notre fenêtre, c'est toujours un peu compliqué. Pour les Américains, a priori, ce genre d'amalgame est visiblement un peu moins. Enfin, ça les fait moins rire. En tout cas, c'est ce que je vous disais. Il y a beaucoup de discussions. Globalement, on a beaucoup d'Américains qui ne savent juste pas vraiment où situer et qui ne comprennent pas forcément. Ils n'ont pas lu les mêmes articles que Monsieur Trump, visiblement.
Des articles puissants.
Des articles puissants. Mais il y a quand même beaucoup d'expressions de démocrates. En particulier, les deux messages les plus repris aujourd'hui le web, ce sont deux tweets de Robert De Niro qui est très remonté sur le sujet et qui
est contre Trump également, oui.
Et donc contre Trump qui essaye d'expliquer la réalité de la relation de Trump avec la Turquie, la complexité des inaugurations qu'il a pu avoir en Turquie sur certaines tours. Enfin bref, il essaye de décrypter à sa façon. Robert De Niro. Mais globalement, on sent bien que c'est un sujet qui dépasse pour les Américains le sujet turc. C'est un sujet Trump et la réalité de la relation de Trump avec l'étranger et la réalité de
l'ingérence américaine.
Justement, on sourit des références historiques de Donald Trump
je dirais presque qu'on frémit. Hein.
Ouais, on frémit.
C'est ça, exactement. Mais ce qui est terrible, c'est que les pays étrangers, à commencer par la France, l'Europe, n'ont pas compris encore depuis l'élection de Donald Trump qu'il fait ce qu'il dit. Et le problème, justement, ça fait quand même plusieurs semaines qu'il a autorisé Erdogan à entrer en Syrie, et on a eu des réactions assez mollassonnes, finalement, des gouvernements étrangers. Mais quand il dit quelque chose, alors aujourd'hui, Donald Trump regrette, mais quand Donald Trump dit quelque chose sur le plan international, il a tendance à vraiment le faire. Et on sous-estime un peu cette capacité d'agir de Donald Trump sur un coup de sang. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est assez fatal. Ça peut être assez fatal, du moins, pour l'Europe.
C'est pas sur un coup de sang, généralement. Effectivement, Donald Trump fait toujours ce qu'il dit, mais c'est pas sur un coup de sang, parce qu'il suffit de regarder son programme, il fait exactement ce qu'il avait dit.
Voilà.
Il est sorti des accords de Paris, il est sorti du traité avec l'Iran, il a déménagé l'ambassade d'Israël à Jérusalem, il fait tout ce qu'il dit. En tout cas, là, Erdogan, si on reparle diplomatie, a réussi quelque chose, parce que si les Américains s'en vont, en fait, c'est Poutine qui aura réussi à virer les Américains de Syrie sans tirer un seul coup de feu.
Et de garder la main pour l'instant.
Absolument, donc c'est aussi une victoire pour Poutine.
20h50 sur France Info. Le rappel de l'info avec vous, Jules de Kiss.
Les Christophe Castaner n'inspire pas confiance aux Français, d'après notre sondage au Doxa Dentsu Consulting pour France Info et Le Figaro. Une défiance massive pour 7 Français sur 10. Il lui reproche d'avoir communiqué trop vite après l'attaque de la préfecture de police de Paris, d'avoir assuré à tort que jamais le tueur n'avait présenté de signes de radicalisation. Ils sont une même proportion à ne le juger ni compétent ni sympathique. L'offensive turque est extrêmement grave car cela remet en cause 5 ans de combat contre Daesh. Déclaration de Jean-Yves Le Drian ce soir. Le ministre français des Affaires étrangères assure que contrairement à ce que l'on pourrait penser, Daesh n'est pas mort en Syrie. Une résurgence du groupe terroriste, l'évasion de prisonniers également, ce sont les principales craintes des Occidentaux. Alors que l'offensive turque se poursuit ce soir dans les territoires contrôlés par les Kurdes. Pour Florence Parly, le rejet de la candidature de Sylvie Goulard à la Commission européenne relève beaucoup plus de jeux de pouvoir internes aux institutions à Bruxelles qu'à ses capacités. La ministre des Armées défend sur France Info celle qui l'a précédée à son poste. Elle avait dû le quitter à cause de soupçons d'emploi fictif au Parlement européen. Une affaire notamment dont elle avait dû se défendre lors des auditions entourant sa possible nomination. Réunis à Lyon toute la journée, plusieurs pays, dont la France, promettent près de 13 milliards d'euros pour alimenter le Fonds mondial contre les maladies infectieuses. Une somme d'argent qui doit servir à éradiquer le sida, la tuberculose et le paludisme d'ici 10 ans. Et puis prime à la littérature de l'Europe centrale. Aujourd'hui, 2 prix Nobel de littérature, l'un remis à la polonaise Olga Tokarczuk, l'autre à l'écrivain autrichien Peter Handke.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h. Les informés, Jean-François Aquili.
Allez, je vous ai réservé, chers informés, une petite surprise pour refermer cette émission. Une apparition étonnante, vous avez sans doute pu la constater chez nos confrères de la radio-télévision suisse. Un certain François Fillon, qui a déclaré que non, eh bien, un retour en politique n'était pour lui pas imaginable et dit n'éprouver aucune nostalgie et qui a ironisé au passage sur notre actuel président Emmanuel Macron au chapitre des Gilets jaunes. On écoute l'ancien candidat des Républicains, François Fillon.
Si on réfléchit bien, c'est pas grand-chose cette affaire de Gilets jaunes. Il y a eu au maximum des manifestations 150 ou 180 000 personnes dans toute la France à manifester. Je vais être un peu prétentieux, mais quand j'étais ministre des Affaires sociales, j'ai fait une réforme des retraites, j'ai mis 2,5 millions de personnes dans la rue.
Ah oui, vous avez fait mieux, là.
Macron, c'est un petit joueur à côté. Ouais. Voilà.
Macron, petit joueur, une certaine dose d'humour, la british, britannique, Olivier Perroux.
Oui, c'est un humour qui est assez connu pour, des fois, François Fillon n'est pas connu pour son humour, mais quand il fait de l'humour, c'est un humour assez flegmatique, assez britannique. On a bien vu qu'il a pu lui tailler un costard, si je peux me permettre l'expression. Oui, mais c'est surtout, mais c'est surtout, sur le fond, sur ce que dit François Fillon, il est un peu de mauvaise foi, parce que certes, en termes de chiffres, en termes de nombres, il a se rassembler dans la rue beaucoup plus de personnes. Mais quand on regarde les Gilets jaunes, il y avait vraiment beaucoup moins de personnes qu'à l'époque de la réforme de Fillon. Mais le panel, le profil des gens était beaucoup plus large. On avait vraiment des gens des ruralités, des gens qui n'étaient pas habitués et qui n'avaient jamais manifesté. Donc le profil du Gilet jaune, si je peux le dire ainsi, est vraiment différent. Et c'est en ça que la crise des Gilets jaunes, comme on aime à le dire, était vraiment unique en son genre.
Et Gilles Bornstein, cette apparition vous a surpris aujourd'hui ?
Ah oui, alors là franchement ça m'a surpris parce qu'on avait oublié François Fillon, enfin si, il a été à l'une de l'actualité récemment parce qu'on a su qu'il allait comparaître devant le tribunal. Je m'attendais pas à ce qu'il vienne, franchement je m'attendais pas à ce qu'il vienne commenter.
En pays neutre, en Suisse.
En Suisse, en pays neutre, absolument, à ce qu'il vienne commenter la vie politique française. Cela dit, dans ce qu'il a dit lui, il a mis 2,5 millions de personnes dans la rue et les Gilets jaunes 180 000. Je sais qu'il y a quand même une inquiétude sur ces faibles nombres de manifestants qui peuvent être violents, et il y a un rapport à la violence dans les manifestations qui fait que les choses ont changé et que maintenant, même peu de manifestants, eh bien, l'exécutif peut en avoir peur.
Pascal Jalabert, il a dit autre chose, François Fillon, si vous le permettez. La droite française s'est suicidée avec ses divisions. Il est revenu sur, au fond, le passé politique de sa famille, de la droite traditionnelle républicaine.
Je ne sais pas si on sait faire à Kiri, mais lui, il tenait le pistolet quand même, ou le sabre, parce que il a quand même bien contribué aux divisions. Quand il commence sa campagne de la primaire en disant, vous imaginez, général de Gaulle a mis en examen. C'est une attaque frontale contre Nicolas Sarkozy. Il n'a pas ménagé Alain Juppé. Donc, il a contribué à ces divisions.
Ah, il a dit, il a dit, je vous coupe. Il a dit, il y a depuis une vingtaine d'années des batailles uniquement personnelles, individuelles, d'égo, oui. Pas beaucoup de débats idéologiques. Il ajoute qu'il a jugé intéressant de voir aux obsèques de Jacques Chirac ces gens, dit-il, qui s'étaient battus les uns contre les autres pour l'occasion rassemblés et réconciliés.
Oui, alors c'est souvent le cas lors de cérémonies.
Il y a un petit côté règlement de compte, hein.
Oui, petit règlement de compte, mais ça ne trompe personne. François Fillon, il était au cœur, en effet, de ces divisions, de ces batailles d'égo.
Il était Premier ministre aussi.
Voilà, il était aussi Premier ministre, qui, alors, elles existaient à gauche aussi, mais à droite, c'est plus souvent des batailles violentes de personnes. À gauche, ça correspond aussi à des courants. Mais des deux côtés, que ce soit le PS ou feu l'UMP, on a assisté à des batailles d'égo même ça a commencé sous Jacques Chirac avec Édouard Balladur, rappelons-nous, donc c'est pas nouveau et il a contribué comme tous les leaders de cet autre monde.
Véronique Reilsoult, François Fillon qui pratique les cartes postales toujours d'ailleurs Nicolas Sarkozy.
Comme c'était une surprise, heureusement, j'ai pu aller regarder rapidement. Merci beaucoup pour la surprise, pour vous dire ce que disent les internautes.
Vous êtes très actifs, c'est bien.
Voilà.
Un test. Alors,
d'abord, c'était fait en direct. D'abord, visiblement, les Suisses ont apprécié cette intervention, parce que c'est beaucoup, beaucoup d'internautes suisses qui ont commenté.
Et peut-être exilé fiscal.
Voilà. Et puis après, globalement, on va dire qu'il y a 10 000 messages, donc ça commence à prendre. C'est en train d'être relayé. Le symbole le plus utilisé, c'est le personnage du clown, donc je sais pas comment est-ce qu'on peut comprendre ça. Globalement, les uns et les
comme
autres.
Comme le homard, je pense, à peu
voilà,
près.
Voilà, comme le homard. C'est des symboles
pas de,
qui
pas
reviennent
de surinterprétation.
Toujours.
Donc
globalement, on va dire que de ce que je vois là, les uns et les autres disent il est quand même gonflé et c'est pas forcément tout à fait apprécié. Maintenant, il aurait fallu que je puisse aller regarder si.
Non, mais c'est très bien déjà, c'est déjà beaucoup. Voilà. Jim Bernstein a fait de l'humour au passage, mais bon, on va peut-être pas insister là-dessus.
Je suis désolée, la blague du costume était reprise aussi.
Mince, ça, je pensais être original.
Non, mais cela dit, je pense que pour Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, il doit être très content de voir François Fillon reprendre, parce que ça fait tellement incarnation du vieux monde, de celui qui l'ouvre, alors que franchement, il serait pas obligé que ça peut que contrebalancer.
Faut pas oublier que c'est le seul candidat.
Se dire que le nouveau monde est pas si mal que ça.
C'est quand même le seul candidat à la 5e République qui n'ait pas été capable d'amener la droite au second tour des élections.
Sachant qu'il y a un premier tour, chez les Républicains pour ce week-end passionnant. On y reviendra. Pascal Janabert, tiens, qu'y a-t-il à la une des journaux du groupe Ebrun.
Alors demain, nous allons parler évidemment de cette guerre donc entre la Turquie et puis les Kurdes du nord de la Syrie, parce que ça touche la France de très près, avec ce risque en effet de retour de combattants, et puis pour un peu décrypter ça auprès de nos lecteurs qui ne comprennent pas comment se fait-il qu'on soit membre de l'OTAN comme la Turquie et qu'on ait soutenu des Kurdes et que maintenant les deux pays se battent.
Olivier Perroux, la une du magazine Le Point, dans les kiosques et sur le net.
Et sur le net, et on revient sur cet épisode de la préfecture de la police de Paris et notamment sur cette question de la radicalisation au sein de l'administration française.
Le titre
française.
C'est « Sommes-nous devenus lâches face à l'islamisme ?» Merci à tous les quatre, merci Véronique Reilsoult, Pascal Janabert, Olivier Perroux, Gilles Bernstein. Pour ma part, je vous dis à demain soir pour une prochaine édition des Informés sur France Info. Bonne soirée.